Turning this morning to the Gospel of John, chapter 5, and verse 25.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ce matin dans l'Évangile de Jean, au chapitre 5 et au verset 25. L'Évangile de Jean, chapitre 5, verset 25. Ces paroles de Christ, « en vérité, je vous le dis, le temps vient, et il est déjà venu, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et où ceux qui l'auront entendu vivront. » Et notre sujet ce matin, c'est simplement le ciel ou la terre. À présent, le Seigneur vient de guérir le paralytique à Bethesda, qui était là, couché près du portique de Bethesda. Et c'était une image de la résurrection d'une certaine manière. Un homme qui était sans espoir, incapable de marcher, un homme qui ne pouvait même pas aller suffisamment rapidement dans la piscine pour être le premier à être guéri. Mais là, le Seigneur lui demande de se lever, de marcher, de porter son lit, et c'est là ce qu'il a fait. Et les scribes et les pharisiens, ceux que Jean dans l'Évangile décrit comme les Juifs, cela ne veut pas dire tous les Juifs, comme nous l'avons souligné auparavant, mais les chefs des Juifs et ceux qui les représentent, ceux qui parlaient pour les prêtres, le sacrificateur, les pharisiens, les sadducéens, ont repris cet homme parce que ce miracle a été fait le jour du sabbat. Et le Seigneur a répondu et il a affirmé qu'il est le Fils de Dieu. C'est sa deuxième visite à Jérusalem qui est rapportée dans l'Évangile. Et nous en arrivons ici au verset 25. Dans cette prédication de Christ, je veux relire le verset 24. « en vérité, je vous le dis, que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, elle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Et cette déclaration est souligné par le verset 25. Et mon premier point, c'est la vie après la mort. Au verset 25, à nouveau, cette déclaration est celle-ci, le temps vient, quelque chose de nouveau va se passer, quelque chose qui ne s'est pas passé auparavant. Le temps vient et il est déjà venu, en d'autres termes, c'est une nouvelle ère, mais qui a déjà commencé, ou qui a commencé à commencer. Le temps vient et il est déjà venu. C'est quelque chose qui va se passer à partir de maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et où ceux qui l'auront entendu vivront. Bien sûr, le Seigneur se réfère ici à ceux qui sont morts spirituellement. Des gens qui vivent, mais spirituellement ils sont morts, sous la condamnation de Dieu, sans vie spirituelle en eux, sans communion avec Dieu, sans privilège spirituel, les Juifs et les non-Juifs. Mais parmi eux, beaucoup vont entendre la voix du Fils de Dieu. Entendre, c'est-à-dire d'une manière toute particulière, entendre en croyant, entendre de manière à ce que ceux-ci les remettent en question, entendent la voix de Christ, son évangile et l'évangile prêché par ses disciples, de manière à ce que ceci est vrai pour eux, ils réalisent que ceci est vrai, authentique, qu'il est le Messie, le Sauveur, et ils parlent de la vérité. Et ceci est urgent pour leur âme. Ainsi, ils entendent sa parole et ils sont convaincus de péché, de leur besoin d'être réconciliés avec Dieu, de la vie spirituelle et du pardon. Et ils vivront. Ceci parle d'une forme de résurrection qui va se passer dans le cœur des gens qui vivent. Et ceci se passera dans toute l'ère de l'Évangile, dans toute l'ère chrétienne. Le salut était toujours là par la grâce, par le moyen de la foi, même dans l'Ancien Testament, dans tous ces siècles, et Moïse a prêché l'Évangile, l'apôtre Paul nous dit cela. Nous savons que la loi est donnée, mais à côté de la loi, il y a ce message de la grâce que Moïse a prêché clairement et c'est déclaré si clairement dans Deutéronome 29 et 30. C'est ce dernier grand message de Moïse au peuple quand il est inspiré par Dieu pour décrire ce qu'il appelle une autre alliance à côté de l'alliance, une expression de l'alliance de la grâce qu'il a toujours prêché, que les gens ont besoin du pardon, que les cœurs doivent être circoncis, que leur vie doit être transformée. Et il décrit tout ceci d'une manière si claire et il parle en termes de « je vous offre la vie ou la mort ». Et ils étaient hébreux, ils étaient convaincus que parce que Dieu leur a donné la loi et une forme d'adoration, à cause de cela, ils pouvaient se tenir devant Dieu, ils avaient sa faveur et n'avaient pas besoin d'être réconciliés avec Dieu. Dès le début, il y avait cette notion qui était dans leur esprit et ceci a grandi de plus en plus. Et ils étaient ainsi esclaves de cette pensée. En pensant qu'ils étaient des gens privilégiés, ils ne comprenaient pas le besoin de la repentance des individus et la miséricorde de Dieu et son pardon et la vie nouvelle que nous devons recevoir, la vie spirituelle. Ainsi, toujours, c'était par la grâce, le salut par la grâce, par la miséricorde de Dieu, le salut libre qui est donné à des pécheurs qui ne le méritent pas, qui croient dans cette miséricorde, qui viennent à Dieu d'une manière personnelle. Cependant, dans l'Ancien Testament, ils avaient les sacrifices, les symboles, une illustration de ce qui va se passer dans le futur. Quand le Messie va venir, il va souffrir, il va mourir pour les pécheurs, mais ils étaient enseignés que le sang doit être versé, qu'il va y avoir la souffrance et ces sacrifices des animaux, comme vous le savez, étaient des symboles, une illustration qui les assurait qu'il y aura le pardon. S'ils crient à Dieu de tout leur cœur, ils peuvent être pardonnés. Et ceci montrait également ce qui allait venir. Mais maintenant, une ère nouvelle est venue. Christ est venu. Et dans peu de temps, à peu près 2 ans après cette prédication, il va souffrir, mourir à la croix du calvaire. Et ils verront clairement, et ceci sera prêché clairement, qu'il est lui le grand sacrifice, qu'il est le Rédempteur, le Messie, qu'il a porté la condamnation du péché. Et ainsi, c'est se confier en lui, en sa parole, le recevoir lui comme étant le Messie, le Sauveur. C'est là le salut, c'est là ce qu'il veut dire dans ce verset 25. En vérité, je vous le dis, le temps vient et il est déjà venu où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. C'est une résurrection spirituelle. Dans Apocalypse 20, verset 5, ceci est appelé la première résurrection, c'est la conversion à Christ. C'est une résurrection spirituelle, c'est la vie après la mort, c'est cette compréhension et croire en lui. Ainsi, le temps vient et il est déjà venu où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. C'est la même chose que de croire dans le verset précédent. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. Celui qui entend en croyant et qui comprend ce que cela signifie. Alors il vivra. Ainsi, les morts entendront. Les gens qui sont perdus, loin de Dieu, c'est nous, dans notre temps, nous entendrons et nous réaliserons que ce message est authentique, que nous avons besoin d'un sauveur, que Christ est venu, qu'il a souffert, qu'il est mort et par lui, uniquement, nous pouvons avoir la réconciliation avec Dieu. Et nous serons convaincus de notre péché, de notre besoin de lui et nos cœurs seront brisés. Nous allons venir à lui, vous devez venir à lui pour la vie et alors vous recevez dans votre propre âme cette première résurrection que nous n'appelons pas résurrection en général. Vous êtes passé de la mort à la vie. Et ensuite, au verset 26, et je vais d'une manière chronologique, de verset en verset ce matin, comment est-ce que ceci se passe au verset 26 ? Car comme le Père a la vie en lui-même, bien sûr, il est la source de la vie, la fontaine de la vie, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. par le Fils, par Christ. Non seulement il souffre, il meurt pour les pécheurs, mais également il donne la vie spirituelle à ceux qui viennent à lui. Il est égal au Père, c'est là ce qu'il dit. Et même s'il est dans une personnalité humaine, qu'il marche en tant qu'homme dans son ministère sur terre, il a encore la puissance de la vie parce que le Père lui a donné. Il a toujours eu cette puissance dans l'éternité passée et il retient, il a toujours encore cette puissance même en tant qu'homme sur cette terre. Il peut donner la vie dans l'âme perdue. Verset 27. Et lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement également. Non seulement il donne la vie, mais il est également le juge. Et il a la puissance de juger, même alors qu'il est sur cette terre. Au verset 28, ensuite, nous en arrivons à la deuxième partie de cette vie après la mort, une autre résurrection. Cette fois-ci, une résurrection de notre corps. Ne soyez pas surpris de cela. Ne soyez pas étonnés et émerveillé et surpris que le Fils de Dieu a la puissance de donner la vie et spirituellement d'amener la vie après la mort, mais quelque chose de bien plus grand va se passer. Ne soyez pas surpris de cela, car l'heure vient, ceci c'est à la fin des temps. Ceci ne s'est pas encore passé, ceci c'est quand Christ revient à la fin de l'ère chrétienne, de l'ère de l'Évangile. Ne soyez pas surpris de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. La résurrection du corps pour tous ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus. Leurs corps sont dans le sépulcre, dans la tombe, et beaucoup étaient là pendant des siècles, décomposés, peut-être brûlés, peut-être réduit à des particules qui sont réabsorbées dans la terre. Chers amis, leur âme, en attendant, sont soit réservées pour le jugement, dans ce que nous appelons la maison, la prison des perdus, ou alors au paradis de Christ. En tant qu'âme, sans leur corps, mais le temps va venir, le moment va venir où leur corps va être rassemblé à nouveau avec leur âme. Tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Au verset 29, les gens souvent trouvent ceci difficile et je vais l'expliquer parce que c'est assez simple à comprendre. Et sortiront, écoutez ceci, savoir ceux qui auront bien fait en résurrection de vie et ceux qui auront mal fait en résurrection de condamnation. Et si vous lisez ce verset isolé en dehors du contexte, peut-être vous allez mal le comprendre, mais vous ne devez pas lire ce verset de manière isolée. Peut-être vous vous dites « Oh, j'ai l'impression que ceci, c'est le salut par les œuvres. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ ne dit pas que ceux qui ont fait le bien vont ressusciter pour la vie et ceux qui auront fait le mal, ils vont ressusciter pour la condamnation ?» Mais c'est bien évident que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce que le verset dit à cause des versets qui précèdent. Cette résurrection de vie, considérez à nouveau le verset 25, « en vérité, je vous le dis, le temps vient, il est déjà venu où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, ceux qui entendent, qui comprennent, qui croient, vivront. Eux seront ceux qui expérimenteront la résurrection de vie. C'est la résurrection de vie. » La résurrection de ceux qui vivent spirituellement, ceux qui ont été amenés à la vie par une résurrection spirituelle, en d'autres termes par leur conversion alors qu'ils étaient en vie, alors ils connaîtront la résurrection de la vie parce que leur cœur a été transformé. Ils ont vécu pour plaire à Dieu, pour faire sa volonté et pour suivre ses commandements, garder ses commandements pour vivre pour lui. Ainsi, ce n'est pas la justification par les œuvres. Ce verset 29 suit les autres versets, le verset 25. Ceux qui ont été ressuscités spirituellement, qui sont amenés de la mort à la vie, sont ceux qui participent à cette résurrection de vie du verset 29. Et ils sortiront. Ceux qui auront bien fait en résurrection de vie et ceux qui auront mal fait en résurrection de condamnation. leur résurrection dans le corps de ceux qui sont encore morts spirituellement. C'est la résurrection de condamnation, de mort. Ensuite, Christ continue au verset 30. « Je ne puis rien faire de moi-même. » Il déclare qu'il est le Fils de Dieu. Et nous allons parler de ceci. « Je ne puis rien faire de moi-même. » Ceci n'est pas juste, strictement parlant, parce que Christ peut tout faire par lui-même. Il est la deuxième personne de la Trinité. Il a la puissance divine. Mais ce qu'il veut dire ici, c'est qu'il ne peut rien faire qui n'est pas en accord avec la volonté du Père, parce qu'il y a un seul Dieu, il y a une essence divine, il y a ce que nous appelons le concert de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit pensent de la même manière, leur volonté est parfaite et la même. Ces membres éternels de la Trinité sont indépendants, mais ils sont un dans leur actes, dans leur volonté, parce qu'ils sont entièrement parfaits. Ainsi, ils ne peuvent pas être différents l'un de l'autre. Ils partagent la même essence divine. Ainsi, alors que Christ ne veut pas dire ici qu'il est inférieur au Père, il veut dire ici qu'il ne peut pas agir indépendamment de la volonté du Père, parce qu'ils sont entièrement Dieu, également Dieu, infini, merveilleux, et omniscient, également plein de sagesse. Je ne puis rien faire de moi-même. Et il explique ceci à des êtres humains en des termes que nous pouvons comprendre. Je juge selon que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche point ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Et c'est sa manière de dire que leur volonté et leur pensée sont identiques. Verset 31. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas digne de foi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Si vous lisez au chapitre 8, verset 14, vous verrez la même chose exprimée un peu différemment. Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est véritable, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. » Et il continue en disant, verset 16, « Et si je juge, mon jugement est digne de foi, car je ne suis pas seul, mais avec moi et le Père qui m'a envoyé. » Ainsi, nous en revenons au chapitre 5, au verset 31, et ce que cela signifie, « Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas digne de foi à vos propres yeux, parce que ceci n'est pas vérifié. » Il n'y a pas ce témoignage extérieur à ce que je dis. Il ne veut pas dire ici que s'il rend témoignage à lui-même, il dit quelque chose qui n'est pas vrai. Mais ceci, c'est à leurs yeux. C'est là ce qu'il veut dire dans ce verset. Au verset 32, voyez la manière par laquelle le Seigneur construit son argumentation pour garder leur attention. Et ils sont là, ils écoutent ses paroles. Il y en a un autre qui me rend témoignage. Il ne dit pas encore qui. Ainsi, ils attendent. Qui est celui-ci? Et je sais que le témoignage qu'il me rend est digne de foi. Mais il ne nomme pas encore le témoin. Et en réalité, quelqu'un qui n'est pas le témoin va être nommé. Alors qu'il continue. Verset 33, vous avez envoyé vers Jean. Et c'est là ce qu'ils ont fait. Ils ont envoyé vers Jean toute une délégation pour le questionner. Et Jean a rendu témoignage à la vérité. Souvenez-vous, Jean a dit, je ne suis pas celui qui doit venir. Je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas Christ. Mais il y en a un qui vient après moi, qui était avant moi, et je ne suis pas digne d'ouvrir les lacets de ses souliers. Et lui est celui qui est le Messie. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ils ont envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, je ne recherche point le témoignage de l'homme. En d'autres termes, je ne fonde pas mes déclarations et le fait que je suis le Messie, le Fils de Dieu, sur le témoignage même de Jean, même s'il était un homme si important. Mais je mentionne Jean pour que vous soyez sauvés. Ces choses, je vous l'ai dit, afin que vous soyez sauvés. Jean a été envoyé comme un acte de miséricorde de la part de Dieu avant que Christ lui-même ne vienne et qu'il œuvre ses miracles extraordinaires. Il a envoyé un homme, le dernier prophète Jean-Baptiste. Peut-être par ce toucher humain-là, ceci sera une aide pour les gens pour qu'ils croient en Christ. Je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Il était unique, il était particulier, il brillait, il était plein d'influence. Et vous avez voulu pour un moment vous réjouir à sa lumière, même les scribes et les pharisiens. Mais dès que Jean a commencé à parler du Messie qui est venu, Christ, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, alors ils ont abandonné Jean. Ils ne voulaient pas entendre ce message d'un Messie. Ils ne voulaient pas entendre son message qu'ils avaient besoin de se repentir devant Dieu et d'être réconciliés avec lui et qu'ils devaient dépendre d'un Messie quand il allait venir. Ils ne voulaient pas entendre cela. Non, ils pensaient qu'ils étaient des gens particuliers qui étaient déjà réconciliés avec Dieu, particuliers et qui peuvent se tenir devant Dieu. Au verset 36, Christ continue à parler de ce témoin. Mais moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Le témoignage du Père est divisé en deux aspects. Les œuvres de Christ, les miracles, et les prophéties de l'Ancien Testament. Ce sont là les témoins du Père. Voyez ceci au verset 36. « Mais moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que mon Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, rendent de moi ce témoignage que mon Père m'a envoyé. » L'œuvre de Christ, ses grands miracles, cette puissance sur la nature, il calme la tempête, il multiplie les poissons, il marche sur les eaux, il guérit des membres qui étaient paralysés, brisés, tordus. Il redonne la vue aux aveugles. Il pouvait régénérer même un corps humain par une seule parole, par un seul toucher. Ces miracles. Également, cette puissance sur les démons, de chasser les démons, toutes ces choses, il les a faites là, à la vue de toute la foule qui regardait. Et cependant, la foule endurcissait son cœur. Ces œuvres que j'ai accomplies rendent témoignage que le Père m'a envoyé. C'est là l'authentification du Père. Ils n'ont jamais vu de telles choses. Ceci est bien au-delà de tout miracle qui a été donné aux prophètes de l'Ancien Testament. Et au verset 37, le deuxième type de témoignage du Père est le Père qui m'a envoyé à lui-même rendu témoignage de moi. Et ensuite, une phrase surprenante qui peut être intrigante. Vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu sa face. Ceci est vrai. Ils n'ont pas entendu la voix de Dieu. Ils n'ont pas vu une apparition de Dieu, à l'exception de Christ lui-même. Mais le Seigneur ne parle pas de ceci dans le contexte de ce passage. Ce qu'il veut dire ici, c'est qu'ils n'ont jamais vu Dieu dans les Écritures. Ils n'ont pas vu Dieu dans les Écritures. Ils ont lu les Écritures, mais ils n'ont pas compris. Et ils n'ont pas compris les Écritures. Il parle ici de la parole. Nous lisons à nouveau au verset 37. « Le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. » Il parle ici de la parole. « Vous n'avez jamais entendu sa voix. » Il veut dire ici, quand ils ont lu les Écritures de l'Ancien Testament, ils n'ont pas entendu la voix de Dieu réellement. Ils n'ont pas suffisamment compris les Écritures. Ils n'ont pas compris ce que Dieu disait. Je vous donne un exemple dans un instant. Ni vu sa face. Bien sûr qu'ils n'ont pas vu sa face littéralement, mais même quand ils ont lu les Écritures, ils n'ont pas vu ce que nous pourrions appeler la forme de Dieu, qu'il est un Dieu saint, mais un Dieu de grande miséricorde et prêt à pardonner, à réconcilier les êtres humains avec lui. Mais la forme de Dieu, il est trop saint pour les recevoir s'ils ne cherchent pas le pardon de leurs péchés de tout leur cœur et n'ont jamais reçu la vie nouvelle de sa part. Ils n'ont jamais vu la forme du message, tout ce que cela signifiait réellement, la vraie signification. Ils étaient des experts dans la loi, ces scribes. Ceux qui étudiaient la parole de Dieu pouvaient débattre quel était le commandement le plus important. À leurs yeux, ils pouvaient débattre de beaucoup de choses. Ils connaissaient l'histoire, la géographie de l'Ancien Testament et beaucoup d'autres choses. Mais jamais ils n'ont réalisé qui était Dieu, qui il est, comment il rachète les âmes, la rédemption, ce qu'il allait faire, la signification des prophéties. Ils n'ont pas compris cela. Et il continue au verset 38. Et sa parole ne demeure pas en vous. Le message de la parole n'est pas en eux, dans leur âme. Ils n'ont pas compris. Puisque vous ne croyez point à celui qu'il vous a envoyé, c'est là la preuve, parce qu'il serait impossible pour eux de ne pas réaliser que Christ est Dieu, le Messie, s'ils avaient compris l'Ancien Testament, si réellement ils avaient compris toutes les illustrations, les promesses de Christ, les prophéties dans l'Ancien Testament, s'ils avaient compris tout cela, alors, s'ils avaient cru en cela, immédiatement ils l'auraient reconnu. Ce serait évident, mais la preuve qu'ils n'ont pas compris du tout la parole est ici, car vous n'avez pas reçu le Fils, vous ne l'avez pas reconnu quand il est venu. Puisque vous ne croyez point à celui qu'il vous a envoyé. Le Seigneur continue au verset 39. Dans cette première grande prédication donnée au chef des Juifs à Jérusalem, sondez les Écritures. Il y a un grand débat ici. Est-ce que c'est une instruction, un commandement, ou est-ce que c'est simplement une observation? Vous sondez les Écritures constamment. Notre traduction, je crois, a raison en faisant de cette phrase un impératif. Sondez les Écritures, une exhortation, un défi. Sondez les Écritures, parce qu'en elles, vous croyez avoir la vie éternelle. Vous lisez la loi cérémonielle, et comment par Moïse, ces grands privilèges vous ont été donnés. Et vous pensez que, parce que tout ceci s'est passé, ceci montre que vous avez la faveur de Dieu. Vous n'avez jamais réalisé que cette loi vous a été donnée pour vous humilier, pour vous montrer que vous êtes pécheur devant Dieu, que vous avez besoin du salut, de la miséricorde de Dieu, de son pardon qui sera donné par le Messie. Vous n'avez jamais compris cela. Vous avez conclu les mauvaises choses par rapport aux Écritures. Sondez les Écritures parce que vous pensez que vous avez la vie éternelle, mais vous n'avez pas compris les Écritures. Car ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez point venir à moi pour avoir la vie. Ensuite, le Seigneur change un peu de stratégie à partir du verset 42. Et il continue en expliquant pourquoi, mais je ne vais pas aller dans les détails, pourquoi est-ce qu'ils ont tellement de préjugés, pourquoi leur cœur est si dur, pourquoi est-ce qu'ils sont incrédules. Mais j'aimerais lire le verset 45. Ne pensez point que moi, je vous accuse devant le Père. Moïse, en qui vous espérez, est celui qui vous accusera. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car il a écrit de moi. Et de tant de manières, j'aimerais vous donner un exemple. Et j'aimerais lire le psaume 14. C'est simplement un exemple parmi tant d'autres. Un psaume de David. L'insensé a dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'y a personne qui fasse le bien. C'est une déclaration universelle. L'Éternel abaisse des cieux son regard sur les fils des hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui recherche Dieu. Ils sont tous égarés. les Juifs et les non-Juifs. Bien sûr, il y avait des gens qui étaient sauvés parmi les Juifs en particulier. Mais d'une manière générale, ils se sont tous égarés, toute la race humaine. Ils se sont corrompus tous ensemble. Il n'y en a point qui fasse le bien, non, pas même un seul. C'est là le psalmiste David. Le Seigneur peut-être leur aurait dit, est-ce que vous n'avez jamais lu cela? Est-ce que vous avez lu ce psaume? Et la même chose est dite dans le psaume 53, aucune différence, les mêmes paroles. Et ensuite dans Ésaïe 53 également, nous lisons ceci si souvent au verset 5. Ésaïe qui prêche aux Juifs, qui parle du serviteur souffrant, le Messie. Mais il était meurtri pour nos péchés et frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui et par sa meurtrissure, nous avons la guérison. Pourquoi ? Car nous étions tous errants comme des brebis, nous suivions chacun son propre chemin. Et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Comment est-ce que vous pouvez lire ces choses ? Peut-être le Seigneur leur a dit cela à ces chefs juifs. Et pourquoi est-ce que vous ne réalisez pas que non, les Juifs ne sont pas privilégiés dans le sens où ils sont déjà réconciliés avec Dieu sans repentance ? Mais l'enseignement de l'Écriture dans toute la Bible, et je vous donne quelques exemples simplement, c'est que nous sommes loin de Dieu, nous avons chuté loin de lui, et juifs et non-juifs, nous avons besoin de la miséricorde de Dieu, du pardon de Dieu, et ceci viendra par le Messie. Bien sûr, dans la lettre de Paul aux Romains, il applique ces choses, et je vais lire une partie dans Romains chapitre 3, verset 10, comme il est écrit, il n'y a point de juste, non pas même un seul, il n'y a personne qui ait de l'intelligence, il n'y en a point qui cherche Dieu. Et ensuite, l'apôtre Paul, dans ses versets, cite quatre psaumes et un passage d'Ésaïe. Ceci est extraordinaire. Il cite tous ces passages de l'Écriture. Et il continue, ici, verset 12, Romains 3, verset 12, tous se sont égarés et se sont tous ensemble corrompus. Il n'y en a point qui fasse le bien, non, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se sont servis de leur langue pour tromper. Il y a un venin d'aspic sous leurs lèvres, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang, la désolation et la ruine sont dans leur voie. Ils n'ont point connu le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est point devant leurs yeux. Et l'apôtre Paul continue en montrant combien l'Ancien Testament enseigne clairement le besoin pour tous les gens d'être sauvés individuellement. Et ceci est accompli par Christ, le Sauveur, dans sa souffrance, sa mort à la croix du calvaire. Et j'en reviens à Jean chapitre 5 et cette référence à Moïse. Au verset 45, il y en a un qui vous accuse, même Moïse, en qui vous espérez. J'ai mentionné combien Moïse, ceci est dans Deutéronome 29, il a pris la foule à part avant sa mort et leur a dit, « Vous ne comprenez pas et vous n'avez jamais compris, mais vous devez être pardonné personnellement. Vous devez être personnellement transformé avant la vie nouvelle. Vous devez être sauvé. » et avoir cette circoncision du cœur. Et c'est là, dans les livres de Moïse, où il y a tant de références à Christ. Je peux lire 1 Corinthiens, chapitre 10, où l'apôtre Paul, dans une longue liste, donne beaucoup d'exemples de comment Christ est déclaré dans le livre de Moïse et dans l'Ancien Testament. C'est extraordinaire de nos jours, même parmi des chrétiens qui croient dans la Bible, si souvent, beaucoup de ces types de Christ sont rejetés. Souvent, j'ai lu, et ceci est écrit par des gens sincères, des gens qui écrivent que Joseph n'est pas un type de Christ. Extraordinaire, étonnant, combien même parmi des gens qui croient dans la parole, ces illustrations de l'Ancien Testament, ces types de Christ, on ne les voit pas, on ne les réalise pas, mais c'est un autre sujet. Et une chose triste, mais j'aimerais en arriver à la conclusion, chers amis, au verset 47. « Mais si vous ne croyez pas ces écrits de Moïse, comment croirez-vous mes paroles ?» Nous avons considéré tous les principes de la vie après la mort. Cette résurrection spirituelle, quand nous sommes convertis à Dieu, et ceci se passe dans toute l'ère de l'Évangile, en entendant la parole et en la comprenant, en croyant en Christ, en se repentant et en consacrant nos vies à Christ. Alors nous recevons la vie de Dieu. Nous passons spirituellement de la mort à la vie. Nous avons une nouvelle nature. Nous avons ces signes de la grâce dans nos vies. Nous pouvons prier. Nos péchés sont pardonnés. Nous sommes citoyens du ciel. Nous avons ces facultés spirituelles. Nous pouvons comprendre, entendre la parole de Dieu. Nous pouvons parler à Dieu dans la prière. Nos cœurs sont sensibles et pleins d'amour. Nos consciences sont ramenées à la vie. Nous marchons avec lui. Et il y a une deuxième résurrection. Quand Christ revient à son retour, peut-être dans notre vie, peut-être après que nous soyons dans la tombe, quand nos âmes sont avec Christ au paradis, et tous ceux qui ont reçu la vie sortiront dans cette résurrection de vie, et ceux qui sont perdus seront ressuscités également, mais pour être préparés pour la condamnation éternelle, pour cette tragédie. Chers amis, nous avons considéré la manière par laquelle Christ déclare qu'il est le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Ce terme vient du livre de Daniel. Les Juifs comprenaient que ce terme signifiait le Messie. Il est le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Et c'est par le témoignage du Père, principalement, qui opère par ses œuvres, qui l'authentifie, et par les Écritures également, qui ont prophétisé par rapport au Messie, qui parle tant de lui. Il y a tant de détails. Quand il viendra, comment il viendra, ce qu'il fera. Ces choses sont là dans cette longue prédication de Christ pour les chefs juifs. Et c'est un défi pour eux parce qu'ils n'ont jamais compris la parole de Dieu. Vous entendez la voix de Christ, vous comprenez son œuvre en tant que rédempteur, vous vous repentez de vos péchés, vous croyez entièrement en lui et vous vous donnez à lui. Et par la puissance de l'Esprit, vous comprenez. Vous ne serez pas l'un de ceux pour lesquels on peut dire « Vous n'avez pas compris tout ceci, mais ces choses sont mises à la lumière devant vous, vous les comprenez et vous savez qu'elles sont vraies. » C'est là mon résumé pour nous aider à comprendre cette longue prédication de Christ à Jérusalem.